Bonsoir à vous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'écoute d'RFI, 20h30 à Tizi Ouzou et à Paris, 19h30 à Calémier.
Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berruet.
En République démocratique du Congo, le président Tshisekedi évoque l'éventualité d'un référendum sur la réforme de la Constitution. Déclaration lors d'un déplacement dans la province du Tanganyika où se tient la conférence annuelle des gouverneurs. Jour de présidentiel en Namibie, un pays sur lequel règne depuis 34 ans la SWAPO, un scrutin qui s'est achevé il y a quelques instants et qui pourrait déboucher sur l'alternance, et la jeunesse minée par le chômage rejette le bilan du parti au pouvoir. Nous parlerons de la découverte d'un important gisement d'or en Côte d'Ivoire de classe mondiale. Il pourrait produire jusqu'à 11 tonnes de métal précieux chaque année. Et puis les sports, le handball avec le coup d'envoi ce jeudi de la 26e CAN féminine à Kinshasa. Le président congolais est dans la province du Tanganyika. Il doit assister à la conférence annuelle des gouverneurs qui se tient à Calémier. À peine descendu de son avion, Félix Tshisekedi a tenu un discours devant la population dans lequel il a une nouvelle fois évoqué une réforme de la Constitution avec à la clé un référendum à Kinshasa. Pauline Azidi.
C'est au peuple lui-même de s'exprimer, a déclaré en Lingala Félix Tshisekedi concernant l'avenir de la Constitution. Je ne vais pas rentrer dans une polémique, mais laisser le libre débat entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Le dernier mot reviendra au peuple, a conclu le président, qui met donc sur la table un possible référendum. C'est la troisième fois en un peu plus d'un mois que le président aborde le sujet dans un discours, à chaque fois lors d'un déplacement en province. Fin octobre, c'est à Kisangani dans la Tshopo qu'il avait évoqué une possible révision constitutionnelle. Mi-novembre, à Lubumbashi, dans le Katanga, il avait clarifié sa position, expliquant que la question n'était pas celle d'un troisième mandat, mais que la constitution actuelle ne protégeait pas assez le pays. Et de nouveau, il est question de la réforme à Calémie. Et ce mercredi, le président a obtenu un soutien de poids avec celui des gouverneurs de province. Dans un mémorandum lu par Fifi Mazouka à la tête du Lualaba, le collectif des gouverneurs s'est unanimement rangé derrière la démarche du chef de l'État pour réviser une constitution qui, je cite, comporte de nombreuses faiblesses. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et toujours autour de ce débat sur une réforme de la constitution, l'opposant d'Elie Sesanga était ce matin dans les rues de Kinshasa. Il protestait contre le changement de texte. En Namibie, près d'1,5 million d'électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour l'élection présidentielle. 15 candidats en lice, parmi eux deux figures de la scène politique, Netumbo Nandi-Dikwa, candidate du parti historique au pouvoir, la SWAPO, face à Panduleni Itula, son principal adversaire. Itula, ancien membre de la SWAPO, pourrait bien briser l'hégémonie de 34 ans du parti, contraignant ainsi le parti au pouvoir à un second tour. Christina Okello.
Un tournant historique se dessine en Namibie. Depuis l'ouverture des bureaux de vote à 7h ce matin, de longues files d'attente témoignent de l'engouement des Namibiens avec une forte présence des jeunes électeurs. Frustrés par un chômage record et une pauvreté endémique, ces jeunes rejettent le bilan de la SWAPO après 34 ans de règne. Beaucoup pourraient donc se tourner vers l'opposition, notamment Panduleni Itula, leader du Parti des Patriotes Indépendants pour le Changement. Cet avocat et dentiste promet un avenir prospère pour la jeunesse et pourrait bien devenir le visage de l'alternance. Reste à savoir si Panduleni Itula parviendra à rassembler les voix des 20 partis d'opposition, car l'opposition est divisée, qui rend presque inévitable un second tour. Celui-ci pourrait opposer Netumbo Nandi-Daitwa, candidate de la SWAPO et en quête d'un rôle historique en première femme présidente de la Namibie, à Panduleni Itula, leader de l'IPC. Ces élections sont aussi un test pour les anciens mouvements de libération d'Afrique australe, confrontés au bond freeze, ces jeunes nés après l'indépendance et qui ressentent aucune loyauté envers ces partis historiques. Une tendance déjà illustrée par les récents revers politiques au Botswana et en Afrique du Sud.
Et outre la présidentielle, les Namibiens étaient également appelés à élire leurs représentants au Parlement. Et selon les analystes, les premières tendances pourraient être connues d'ici vendredi. Autre scrutin en Tanzanie, cette fois où ont eu lieu aujourd'hui des élections municipales considérées comme un test électoral. 31 millions d'électeurs appelés aux urnes pour désigner plus de 80 000 élus des villes, villages et quartiers. Et le principal parti d'opposition, Chadema, dénonce le meurtre de trois de ses membres ainsi que des fraudes. En Côte d'Ivoire, l'entreprise minière Endeavour Mining annonce la découverte d'un gisement d'or important de classe mondiale à Tanda, dans l'est du pays, avec une production annuelle de 11 tonnes. Annonce faite hier par le directeur général du groupe lors d'un entretien avec le président ivoirien Ouattara, et alors que se tient depuis ce matin le premier salon international des ressources extractives et énergétiques en Côte d'Ivoire, Binta Diagne.
Selon le PDG du groupe Endeavour Mining, ce gisement produira 11 tonnes d'or par an. Il devrait nécessiter un investissement de 530 milliards de francs CFA. La société canadienne, qui exploite déjà deux sites aurifères dans l'ouest et le nord du pays, espère extraire le premier lingot d'or en 2028. Le secteur aurifère est en pleine expansion. Cette année, la Côte d'Ivoire a produit près de 55 tonnes d'or. Le pays a annoncé il y a quelques mois le démarrage du projet Koné dans le nord, considéré comme un gisement de rang majeur dans la sous-région, un site exploité par la société Montage Gold et qui devrait produire près de 155 tonnes d'or en 20 ans, la durée du projet. Toutes ces découvertes donnent une visibilité à la Côte d'Ivoire. Elles devront attirer d'autres investisseurs, affirme un expert du secteur, des investisseurs sensibles à la réforme prochaine du Code minier, un texte qui date de 2014. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Au Sénégal, les résultats définitifs des législatives anticipées du 17 novembre ont été proclamés par le Conseil constitutionnel. Aucun recours n'a été déposé et les résultats confirment bien la victoire sans appel du parti au pouvoir, le PASTEF, qui remporte 130 sièges sur 165 à l'Assemblée nationale. Au Mozambique, le chaos et la cohue à Maputo, la capitale, lors de nouvelles manifestations de l'opposition contre la fraude électorale. Les manifestants étaient appelés à bloquer la circulation routière aux heures de pointe, mais un véhicule blindé des forces de sécurité a renversé une manifestante, provoquant un véritable embrasement de la situation. Gaëlle Alex.
La vidéo fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un véhicule blindé de l'armée mozambicaine rouler à toute allure sur l'avenue Eduardo Mondlane. Dans une véritable cohue, la foule s'écarte pour l'éviter, mais une jeune femme placée derrière une barricade n'a pas le temps de s'enfuir. Elle est percutée de plein fouet par le blindé qui poursuit sa route. Ces faits ont été confirmés par les journalistes de l'agence Lusa présents sur place. S'ensuit alors un véritable chaos. La foule en colère s'en prend à la police. Au jet de pierre, les forces de l'ordre répondent par des gaz lacrymogènes. Vers 11h, des tirs à balles réelles sont entendus dans les rues de la capitale. La tension culmine en fin de matinée quand des manifestants tentent d'incendier un blindé de l'unité d'intervention rapide avec des agents à l'intérieur. Pour l'heure, aucun bilan n'a été rendu public pour cette nouvelle journée de manifestation. Une source à l'hôpital central de Maputo affirme que la jeune femme renversée est désormais hors de danger. Hier, la Commission européenne avait appelé à la retenue, déplorant que la brutalité de la répression ait exacerbé la situation au Mozambique. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
En bref, un tribunal de la capitale somalienne Mogadiscio a délivré ce mercredi un mandat d'arrêt contre Ahmed Madobe, accusé notamment d'atteinte à l'unité nationale. Cet homme vient tout juste d'être réélu président de l'état du Jubaland, c'est dans le sud de la Somalie, lors d'un scrutin non reconnu par le gouvernement fédéral somalien. La culture est la 12e édition du prix de la littérature arabe qui distingue un roman arabe traduit en français, décerné ce soir à la romancière tunisienne Amira Rennim pour son roman Le désastre de la maison des notables, édité chez Philippe Ray. Le prix doit lui être remis ce soir à Paris à l'Institut du monde arabe. Les sports, le handball et le coup d'envoi ce jeudi de la 26e CAN féminine à Kinshasa. L'Angola, quadruple tenant du titre, favorite à sa propre succession, a connu des débuts tranquilles. Et l'Angola a surclassé la Tunisie 36-23. Les Camerounaises ont dû davantage batailler pour s'imposer face à la Guinée 32-26. Menées 15-12 à la pause, les vice-championnes d'Afrique ont dû sérieusement corriger le tir. Écoutez la joueuse, l'arrière Paola Ebanga.
Le coach nous a donné un discours très motivateur. Il nous a demandé de jouer simple et de jouer efficace par rapport aux différentes qualités de jeu qu'on a. Et aussi, il nous a demandé de mieux gérer notre défense parce qu'au début, on était assez haute. C'était pas nécessaire de monter assez haut. Du coup, on a rabattu la défense et on a résolu les problèmes en défense. En attaque, on a été un peu plus efficace dans les tirs. On a mis un peu plus de buts, du coup, ça nous a beaucoup aidé. On vient avec trois objectifs. Le premier, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde. Le second, c'est de faire minimum deuxième comme au Sénégal, comme les deux derniers CAN. Et bien sûr, l'objectif ultime, c'est de remporter la CAN.
Des propos recueillis par Olga Massangou. C'est la fin de cette édition. Il est 20h40 ici à Paris.